Et bonjour à tous. En route sur les chemins de la philosophie, on commence par un châtiment ou une punition. Le commandeur qui débarque pour punir Don Giovanni. Il y a des jours comme ça où on commence avec la fin du Don Giovanni de Mozart. Bonjour Philippe Audejean.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Dites-nous, rappelez-nous, quel crime a commis Don Juan pour se voir ainsi puni par le commandeur?
Quel crime a commis Don Juan?
Mais oui, on commence par un châtiment. Le commandeur vient châtier, punir Don Giovanni qui a son cœur qui se glace.
Il a séduit des femmes mariées.
Ouais. Et c'est un crime ou un délit?
Dans l'Ancien Régime, c'est un crime.
La distinction est importante.
La distinction est importante. En droit français, elle existe en droit français, elle n'existe pas dans tous les systèmes juridiques. En droit français, le délit, c'est une infraction qui est punie par des peines inférieures à 5 ans, je crois. Mais je ne suis pas juriste et donc il faudrait demander à un
spécialiste. C'est une définition en tout cas très précise. Vous n'êtes pas là pour nous parler de Don Giovanni, mais de Beccaria et de son ouvrage Des délits et des peines, dont vous avez proposé une préface, une traduction, des notes aux éditions Rivage. Vous avez également consacré un ouvrage à la philosophie de Beccaria, Savoir punir, savoir écrire, savoir produire. Vous étiez venu en parler à ce micro, c'était en 2010. César et Beccaria n'est pas très connu aujourd'hui en France, il est peu étudié et pourtant c'est un texte qui est décisif dans l'histoire et dans la philosophie du droit.
Oui, on peut dire que ce texte est le fondateur des grands principes du droit pénal moderne. Peut-être pas de l'ensemble du droit pénal, on reviendra peut-être sur des problèmes comme la prison, qui est aujourd'hui la peine, non seulement la peine par excellence, mais la seule peine qui existe dans le droit pénal moderne. Or, Beccaria ne l'envisage pas, mais il fonde les grands principes qui structurent, par exemple, le procès pénal, qui structurent qui vraiment structure l'institution pénale dans son ensemble. Donc on peut dire vraiment qu'il est le fondateur du droit pénal moderne tel qu'il a émergé de la Révolution française et tel qu'il s'est construit au cours du 19e et encore du 20e siècle.
Le texte lui-même a une histoire intéressante, non seulement parce qu'il a été écrit par son auteur alors qu'il était très jeune, âgé de 26 ans je crois.
Oui, c'est ça.
Mais ça s'inscrit dans un contexte politique particulier. Le texte n'est pas simplement, disons, le résultat des pensées d'un intellectuel de son temps, c'est aussi un acte subversif au moment où il écrit ce texte.
Alors oui, je crois qu'effectivement pour comprendre la pensée de Beccaria, il faut absolument comprendre le contexte dans lequel Beccaria a conçu son œuvre et a rédigé ce livre.
On est au milieu du 18e siècle, en Italie.
Voilà, donc on est à Milan, parce que l'Italie n'est pas un état unifié. Et Milan est un état qui est alors sous domination autrichienne. Donc il est sous domination autrichienne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui dirigent concrètement, ceux qui ont concrètement le pouvoir à Milan, c'est pas vraiment les Autrichiens, parce que les Autrichiens se contentent de percevoir des rentrées fiscales, mais ceux qui dirigent à Milan, c'est l'oligarchie, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Italie les patriciens. Les patriciens, pour devenir patricien, il faut appartenir à la fine fleur de l'aristocratie. Et ce sont eux qui dirigent concrètement. Ce sont eux qui ont, en particulier, ils ont des grands pouvoirs judiciaires. Ce sont eux qui jugent, ce sont eux qui occupent les grandes fonctions judiciaires. Et puis, ils ont des pouvoirs fiscaux, c'est-à-dire que c'est eux qui perçoivent les rentrées fiscales et ensuite qui en redonnent une partie à l'Autriche. Et Beccaria, c'est quelqu'un qui naît en 1738, c'est le fils d'un aristocrate. Et pour participer aux magistratures, pour rentrer dans les magistratures et pour rentrer en particulier dans les grandes magistratures, celles qui détiennent vraiment le grand pouvoir à Milan, il y a deux conditions. La première, c'est d'obtenir un doctorat en droit. Il faut avoir fait des études de droit pour devenir sénateur, le Sénat étant la plus grande institution, la plus grande magistrature en Lombardie, dans l'État de Milan. Et il faut d'autre part être patricien, comme je le disais à l'instant. Alors il va se passer deux choses dans la vie de Beccaria, c'est qu'en 1758 il obtient son doctorat en droit, et en 1759 son père obtient enfin, après un long parcours de supplique, il obtient le titre de patricien. Donc il y a un destin qui semble tout tracé pour Beccaria, un destin qui semble déjà écrit à l'avance.
Et pourtant,
tout va se passer différemment. On pensait qu'il allait devenir magistrat, peut-être même sénateur, détenir un grand pouvoir dans les magistratures de l'époque.
Déjà, il tombe amoureux.
Il va faire deux rencontres qui vont bouleverser son destin. Et qui vont bouleverser un petit peu le nôtre, parce qu'il va écrire des délices et des peines. La première, c'est effectivement une rencontre amoureuse. Il va rencontrer une jeune fille, Teresa Blasco, qui a 16 ans. Lui, il en a un petit peu plus, il en a 21. Et c'est en 1760. Donc tout ça se fait très vite. 1758, le doctorat en droit. 1759, son père accède au rang de patricien. Et 1760, il rencontre cette jeune fille. Et cette jeune fille, alors elle est noble. Mais vous savez, la noblesse, c'est la société de l'Ancien Régime est extrêmement différenciée. Et à l'intérieur de ces différences, il y a encore des différences. Et la noblesse est très différenciée. Elle a un tout petit quartier de noblesse. Et surtout, elle n'est pas de la noblesse milanaise. Et donc son père est fou furieux. Il ne veut absolument pas de ce mariage. C'est un peu ses rêves brisés. Il rêvait d'une ascension sociale très importante pour son fils, patricien, doctorat en droit, etc. Et ce sont tous ses rêves qui se brisent tout à coup avec ce coup de foudre de Beccaria pour cette jeune fille. Mais le problème, c'est que Beccaria résiste, il insiste et il veut absolument se marier contre la volonté de son père. Et là, ça va être le clash. Enfin, ils vont rompre. Son père va le jeter hors de la maison familiale. Il va lui refuser l'aide financière. Enfin, lui donner le minimum. Il est obligé par la loi de lui donner un petit peu, mais vraiment le minimum. Donc Beccaria résiste. Il va même imposer l'arrêt à domicile. Il va demander aux autorités d'empêcher Beccaria, enfin d'empêcher Cesare, son fils, de sortir de chez lui. Donc il y a vraiment un conflit très dur.
C'est pas anodin que le théoricien du droit pénal ait d'abord été construit quelque part par la transgression de la loi paternelle.
Tout à fait. Et Beccaria résiste et il va se retrouver à la rue, un jeune époux, bientôt jeune père, mais ayant rompu avec son père. En fait, bon, tout cela paraît un peu anecdotique, mais en réalité, c'est une petite histoire qui va très vite rejoindre la grande, parce qu'il va faire une deuxième rencontre tout à fait déterminante. C'est celle d'un autre fils d'aristocrate, lui aussi brouillé avec sa famille, mais brouillé de manière encore plus violente que Beccaria depuis très longtemps. En fait, c'est une brouille culturelle, c'est un conflit culturel qui déchire l'aristocratie milanaise à cette époque-là.
C'est un conflit de génération.
Ouais, c'est un conflit de génération, c'est un conflit entre deux cultures. En fait, on a toute une série de jeunes aristocrates qui ne supportent plus, qui ne se reconnaissent plus dans la culture de leur père, qu'ils jugent poussiéreuse et inadaptée à la modernité. Et donc, ils rencontrent un autre aristocrate, Pietro Verri, quelqu'un qui a énormément de charisme, qui a énormément de volonté, et qui va l'encourager à prendre fait et cause pour les souverains autrichiens, contre leur père. Parce qu'en fait, on est dans une époque où les souverains autrichiens, la monarchie viennoise, commence à trouver que les aristocrates lombards ont trop de pouvoir et qu'ils freinent le développement économique. Ils ont trop de pouvoir, notamment, par exemple, ils ne leur ramènent pas assez d'argent. Enfin, les rentrées fiscales ne sont pas assez importantes, c'est pour ça qu'ils en gardent trop, et puis ils ne favorisent pas assez la productivité économique. Donc, ils ont décidé de reprendre la main, de reprendre le pouvoir contre les aristocrates. Donc, on est à un moment, en réalité, c'est ça l'enjeu, bien sûr, c'est pas du tout l'anecdote. L'enjeu, la grande histoire, c'est le conflit politique très dur qui oppose à l'époque les aristocrates lombards qui tiennent les grandes magistratures 2000 ans, et la monarchie viennoise, la monarchie autrichienne, qui essaye de prendre le pouvoir contre les aristocrates. Et ils vont trouver une espèce de cheval de Troie inespéré, une espèce de cinquième colonne à l'intérieur même de l'aristocratie. C'est-à-dire ces fils d'aristocrates qui sont en délicatesse avec leur père, qui décident d'aider les souverains autrichiens à combattre contre leur père et donc contre leur propre père. Et donc Beccaria, avec sous l'impulsion du charisme, de l'enthousiasme, de la volonté de Pietro Verri, qui était vraiment un personnage extraordinaire, qui a formé toute une génération. Il avait 10 ans, il était l'aîné de Beccaria de 10 ans, donc voilà, c'était un peu le grand frère qu'il trouvait en Pietro Verri. Et Pietro Verri va l'inciter à écrire des livres. Ou qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ils vont proposer leur service à la monarchie viennoise. Ils vont leur montrer que s'ils appliquent leurs idées, l'état milanais sera mieux géré, les aristocrates cesseront d'avoir ce pouvoir arbitraire qu'ils possèdent, et la monarchie viennoise ne trouvera que des bénéfices dans... Voilà. Et donc l'un des livres qu'il commande à Beccaria, qu'il lui propose d'écrire, c'est un livre où il propose de réformer tout l'ensemble de la justice pénale.
Ce qui était assez surprenant, parce que même s'il était destiné à une carrière de magistrat, en tout cas une carrière dans la justice, il était surtout très bon dans le domaine des sciences, des mathématiques. On l'appelait le petit Newton, je crois, et c'était plutôt vers l'économie qu'il se dirigeait. Et là, on lui propose de réfléchir sur la justice.
Oui, on lui propose de réfléchir sur la justice, mais peut-être aussi qu'on lui proposait de réfléchir sur la justice en mathématicien ou en économiste, d'un point de vue, d'un point de vue qui ne serait pas juridique. Au fond, ce qu'il reprochait à leur père, c'est de tout penser au prisme de la culture juridique. En fait, ce qu'ils disent, c'est que la culture juridique est inadaptée au pouvoir moderne. C'est pas en lisant le droit romain qu'on va résoudre les problèmes modernes, qui sont des problèmes d'économie, qui sont des problèmes d'administration, qui sont des problèmes de la querelle autour du blé. Donc c'est pas un hasard, c'est pas tout à fait un hasard s'ils demandent précisément à Beccaria, qui était juriste, c'est-à-dire qui a fait un doctorat en droit, donc qui avait des connaissances très précises en matière de droit pénal, mais qui avait aussi cet esprit mathématique et économiste. Qu'il va tenter d'appliquer dans le domaine du droit pénal.
Et contrairement à Don Giovanni, son père ne va pas revenir le punir afin de l'empêcher de mener sa vie. Il va publier des délits et des peines en 1764, il a donc 26 ans. Il le publie de manière anonyme.
Il le publie bien sûr de manière anonyme.
Parce qu'il ne veut pas risquer sa position au moment... Il sait l'impact que va avoir ce texte, sans doute, qui est un texte très clair, très court. C'est son but, il veut vraiment qu'il puisse être lu par le maximum de personnes. Et qui a une utilité vraiment pratique. C'est pas un ouvrage de théorie. Pas seulement, en tout cas.
Oui, c'est un ouvrage qui propose une réforme immédiate, qui propose des réformes très concrètes. Il n'y a pas de critique de l'existant, il y a vraiment une proposition de réforme orientée vers le futur. Il ne s'agit pas du tout, Beccaria ne passe pas son temps à critiquer ce qu'il voit autour de lui. Il propose directement de la refondation d'un système pénal totalement différent, fondé sur des principes totalement différents. Et donc, effectivement, il y a un but pratique immédiat, et d'ailleurs, ça a été suivi des fait dans toute l'Europe, des délits et des peines. D'abord, a suscité un débat très abondant. Au fond, on n'a jamais autant parlé de droit pénal dans toute l'histoire de l'Occident qu'entre 1764 et, 1810.
Grâce à ce texte. Et dans toute l'Europe.
Dans toute l'Europe, il y a une espèce d'effervescence impressionnante sur les questions de la punition et sur les questions de la peine. Je crois vraiment, il n'y a pas d'autre moment dans l'histoire où il existe une production aussi abondante de débats et de discussions sur le droit pénal, sur la punition, sur qu'est-ce que punir, sur comment punir, etc. Sur pourquoi punir. Voilà, toutes les questions fondamentales du droit pénal vont agiter les esprits européens, et il est tout à fait frappant de constater que ces débats dans l'espace public commencent à partir de 1764. Très immédiatement, il va susciter des débats. Et il va susciter aussi des réformes. Par exemple, la première abolition de la peine de mort. Bon, Beccaria, on va peut-être en reparler. Beccaria propose l'abolition de la peine de mort. Mm-hmm. Et la première fois qu'on a aboli la peine de mort en Europe, c'est 22 ans après le livre de Beccaria, en 1786, en Toscane, dans l'État de Toscane, un souverain éclairé qui a lu Beccaria va utiliser les arguments de Beccaria. Alors il y a toute une histoire un peu plus complexe que celle que je raconte maintenant, mais en gros ça s'est passé comme ça. Le souverain de Toscane a aboli la peine de mort suite à l'argumentation développée 22 ans plus tôt, en 1764, par Beccaria.
aucun homme n'a fait le don gratuit d'une partie de sa liberté en vue du bien public. Cette chimère n'existe que dans les romans. Si c'était possible, chacun de nous voudrait que les pactes qui lient les autres ne nous lient point nous-mêmes. Chaque homme se fait le centre de toutes les combinaisons du globe. Ce fut donc la nécessité qui contraignit les hommes à céder une partie de leur propre liberté. Il est donc certain que chacun n'en veut mettre dans le dépôt public que la plus petite portion possible, celle-là seule qui suffise à engager les autres à le défendre. L'agrégat de ces plus petites portions possibles forme le droit de punir. Tout ce qui est en plus est abus et non justice. C'est un fait, mais non un droit. Remarquez que le mot « droit » n'est pas contradictoire avec le mot « force », mais que le premier est plutôt une modification du second, c'est-à-dire la modification la plus utile au plus grand nombre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h16, nous parlons de Beccaria aujourd'hui, l'auteur des Délices et des Peines que Philippe Audejean, mon invité aujourd'hui, a traduit et propose une édition aux éditions Rivage. Je viens de lire le deuxième paragraphe de ce texte, on voit qu'en effet il est très clair, très bien traduit également, ça c'est sûr, puisqu'on le lit avec beaucoup de plaisir, c'est vrai. Et on voit comment Beccaria procède, avant d'en arriver à effectivement plutôt le constat de l'inutilité de la peine de mort, parce que c'est plutôt en termes d'utilité que réfléchit Beccaria. Voilà le type d'argument qu'il propose. Il dit bien que ce qu'on appelle justice, finalement, c'est l'agrégat de ces plus petites portions possibles que chacun est prêt à céder à l'État dans le but de vivre ensemble de la manière la plus harmonieuse possible. En fait, la justice n'est pas autre chose qu'un calcul d'un intérêt bien compris, Philippe Audejean.
Oui, on retrouve ici la formule qui sera celle de l'utilitarisme moderne, le plus grand bonheur du plus grand nombre. Elle est explicitement énoncée par Beccaria, l'une des premières fois. C'est pas tout à fait le premier, mais l'une des premières fois. Et d'ailleurs, Bentham, bon, le fondateur de l'utilitarisme, dira qu'il a trouvé cette formule chez Beccaria et que c'est là vraiment qu'il a commencé à comprendre ce que voulait dire le principe de l'utilité. Donc la justice, c'est pas une question de loi naturelle, c'est pas une question de rapport naturel qui existe éternellement dans les choses, c'est une question d'utilité pragmatique, l'utilité pour le plus grand nombre. Voilà, donc fondée aussi sur l'idée d'égalité, hein, fondée sur l'idée d'égalité la plus grande possible et l'idée de bonheur, hein, l'idée de bien-être. Voilà, nous sommes des êtres humains dans une société, nous essayons de vivre le mieux possible. Alors, c'est à partir de ces critères qui sont des critères séculiers, enfin des critères laïques, hein, des critères qui n'ont rien à voir avec une quelconque justice transcendante que Beccaria essaye de penser les conditions du droit pénal moderne.
On entend ne serait-ce que dans ce paragraphe les références implicites, elles seront explicites plus tard dans le texte, hein, les auteurs qu'a lu Beccaria avant de rédiger le texte. On entend l'influence de Montesquieu, l'influence de Rousseau aussi, hein, puisque finalement c'est l'égalité qui va primer dans l'application même de la justice. Il est contemporain, ce texte est contemporain de Voltaire également, qui en France, c'est au moment de l'affaire Calas, deux ans plus tard, qui met en jeu et en scène le même souci d'une application d'une justice égale pour tous.
Oui, Voltaire, quand il a lu Beccaria, il a été pris d'un enthousiasme, il dit c'est un frère en philosophie. La première fois qu'il le lit la première fois en italien, bon, ensuite il le lira dans la traduction de 1766. Et Beccaria a publié en 1766 un livre intitulé « Commentaire sur le livre des Délices et des Peines ». Donc tout de suite, ça a beaucoup contribué, bien entendu, à la diffusion
Beccaria immense. Lui-même écrit un commentaire.
Non, Voltaire a écrit un commentaire sur Beccaria, commentaire sur le livre des Délices et des Peines. Et ce livre de Voltaire, qui était, bon, bien sûr, hein, Voltaire, bon, a énormément contribué à la diffusion de ce livre. Oui, bien sûr, on est dans un contexte où il y a des affaires en cours.
Et surtout, Voltaire et Beccaria partagent le même souci de distinguer la justice religieuse de la justice pénale.
Voilà, mais simplement, je crois quand même que, permettez-moi juste une petite remarque, je crois que avant d'avoir lu Beccaria, Voltaire interprétait les problèmes de la justice de son temps comme des problèmes de tolérance. Il avait l'impression que ce qui posait problème, c'était l'intolérance des juges à l'égard, par exemple, d'une famille protestante. Voilà, donc ça posait un problème de tolérance. À partir de Beccaria, il comprend qu'il y a un problème plus radical, d'injustice de la justice. Il comprend que la justice de son temps est injuste, qu'elle repose sur des peines injustes, qu'elle repose sur des procédures injustes. Et donc ça va complètement transformer son point de vue et ça va l'amener à écrire de plus en plus sur la justice à partir de 1766. Donc ça, le commentaire sur le livre d'Élise et des peines est le premier livre de Voltaire sur la justice pénale. Et à partir de là, il y aura tout un ensemble de textes qu'il va écrire dans les dernières années de sa vie sur la justice pénale. Et il va toujours avoir Beccaria la référence Beccaria, ça sera une... Ça restera constant jusqu'à la fin de sa vie. Il y aura notamment, il sera frappé par une lettre que lui écrit Beccaria, dans laquelle Beccaria dit que parle d'un châtiment capital, d'une peine capitale, et il dit que c'est un assassinat légal. Voilà, et cette formule va beaucoup impressionner Voltaire, qui va la citer à plusieurs reprises. Voilà, donc. La réflexion de Beccaria a vraiment amorcer un tournant, susciter un tournant dans la réflexion de Voltaire et dans la réflexion générale des penseurs du temps.
En distinguant la punition du châtiment et donc en distinguant la justice divine, disons, ou religieuse de la justice proprement pénale, Beccaria met en scène une conception qui est, semble-t-il, nouvelle de la justice, c'est-à-dire qui n'est pas simplement le fait de certains individus qui pourraient interpréter chaque situation en fonction d'un savoir juridique, d'une espèce d'exégèse juridique assez jargonnante qui fait que finalement la justice qui est rendue n'a rien de juste. Il y a la volonté de débarrasser le droit pénal de toute forme de savoir juridique et de connotation religieuse.
Oui, alors bon, c'est peut-être deux choses qu'il faudrait distinguer, mais en tout cas, ce qui est vrai sur la culture religieuse, vous avez tout à fait raison, ça c'est très important. J'ai dit tout à l'heure que Beccaria fondait les grands principes du droit pénal, et l'un des grands principes du droit pénal moderne, c'est évidemment le principe de laïcité. Hein, c'est évidemment l'idée que voilà que un péché n'est pas une infraction. Enfin, il faut bien distinguer le concept de péché du concept de délit. Et Beccaria défait cette association qui existait dans la culture européenne depuis plusieurs siècles, entre la notion de péché, qui était liée peut-être dans la culture antique aussi à la notion de souillure, toutes ces représentations religieuses de la faute. Il les distingue très nettement du délit et du crime, qui ne se mesure qu'au dommage social créé par l'action de l'infraction. Voilà, la seule mesure de la peine, c'est le dommage social produit par cette action. Et donc, ça n'a effectivement rien d'une offense à Dieu. L'offense à Dieu, ça regarde la conscience, mais ça ne regarde pas du tout l'institution pénale. Et voilà, là, Beccaria développe une réflexion très importante, effectivement, sur ce point, sur cette dissociation entre le droit pénal et le droit religieux.
Et ça a une dimension morale, même plus que religieuse, que ça veut dire aussi que le législateur ne doit pas corriger les hommes, mais au contraire, s'arranger pour faire en sorte que l'obéissance aux lois devienne plus intéressante que le crime. C'est là où on est vraiment dans la perspective utilitaire. C'est comment faire en sorte que les lois, en fait, que chacun ait un intérêt à respecter les lois.
Oui, tout à fait. Beccaria est très net sur ce point. Il ne s'agit pas du tout de corriger les passions ou de les réprimer ou de réprimer les intérêts humains. Il faut faire en sorte que, alors ça c'est une conception très fréquente à l'époque, on la retrouve par exemple chez Helvétius, qui est une grande source très importante de Beccaria. Il ne s'agit pas du tout de réprimer les êtres humains, de réprimer leurs tendances ou de réprimer leurs passions, mais de les faire vivre ensemble de la meilleure manière possible, donc de les diriger vers le bien commun. Voilà, il faut que les passions soient dirigées vers le bien commun. Et donc il s'agit de faire en sorte, par exemple dans le droit pénal, comme vous venez de le dire effectivement, il s'agit de faire en sorte que qu'on n'ait jamais intérêt, voilà, qu'on n'ait jamais intérêt à commettre une infraction. Et selon lui, de nombreux crimes et délits de l'Ancien Régime avaient pour cause la structure même de l'institution pénale. Et ce qui était en cause, c'était l'institution pénale qui rendait en fait plus intéressante certaines infractions.
La simple considération des vérités exposées jusqu'ici montre avec évidence que le but des peines n'est ni de tourmenter et d'affliger un être sensible, ni d'effacer un délit déjà commis. Bien loin d'agir par passion, Un corps politique est le tranquille modérateur des passions particulières. Peut-il y régner cette inutile cruauté qui est l'instrument de la fureur et du fanatisme ou de la faiblesse des tyrans? Les cris d'un malheureux ramènent-ils les actions déjà consommées du temps qui ne revient plus? Le seul but est donc d'empêcher le coupable de faire de nouveaux dommages à ses concitoyens et de détourner les autres d'en faire de semblables. On doit donc choisir des peines et une méthode pour les infliger qui, tout en respectant la proportion, feront une impression plus efficace et plus durable sur les âmes des hommes et la moins tourmentante sur le corps du coupable. C'est au paragraphe 12 des délits et des peines qu'on trouve ces lignes. Philippe de Jean, qui résument presque en fait qui contiennent les lignes directrices principales que suit Beccaria dans ce traité, l'idée de la proportion. Qu'est-ce que ça signifie arriver à proposer une peine qui soit en proportion avec le crime ou le délit commis? Est-ce qu'on est dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, que la justice est censée dépasser?
Alors justement, c'est un paragraphe capital, c'est un paragraphe véritablement capital parce que il critique le principe même qui fondait le droit de punir depuis, non pas depuis toujours, mais en tout cas depuis au moins la naissance de l'Ancien Régime, depuis le XVIe siècle, XVIIe siècle. C'est ce qu'on appelle le principe de rétribution. Le principe de rétribution, c'est très simple, ça consiste à dire que pourquoi punir? Eh bien, on punit parce qu'un mal a été fait, et donc parce que quelqu'un mérite d'être puni. Le fondement du droit de punir, ce qui rend licite la punition, c'est que quelqu'un a commis un délit ou un crime. Et puisqu'il a commis un délit ou un crime, eh bien, il mérite d'être puni. Beccaria, et donc, si vous voulez, dans la doctrine pénale classique, on disait qu'il y avait deux types de fondations, il y avait deux principes qui rendaient légitime le droit de punir, qui rendaient licite. Qu'est-ce qui autorise quelqu'un à punir? Alors, la première chose qui autorise quelqu'un à punir, c'est le crime. C'est-à-dire que quelqu'un a commis un crime, donc il mérite d'être puni. Ensuite, l'autre principe qui fonde le droit de punir, c'est quel type de punition on a le droit d'infliger. Alors là, il y avait un autre principe qui entrait en jeu, c'était le principe d'utilité. On punit pour dissuader, par exemple, on punit pour mettre hors d'état de nuire, on punit pour corriger le coupable, etc. Donc le principe de rétribution fonde l'acte de punir en lui-même, et le principe d'utilité fonde le type de punition la légitimité du type de punition qu'on va infliger. Alors, la révolution de Beccaria, ça consiste à dire que le principe de rétribution n'est pas rationnel. C'est totalement irrationnel de penser que quelqu'un, parce qu'il a commis un crime, mérite de souffrir. C'est un sentiment, bien sûr. Beccaria ne remet pas en cause que ça existe comme sentiment. Il ne pense pas qu'on puisse l'éradiquer. Il ne veut pas du tout qu'on ne ressente plus ce sentiment, mais il dit: pourquoi ce sentiment devrait-il fonder une institution?
Le sentiment, c'est celui de vouloir faire souffrir un coupable.
Voilà, le sentiment de vouloir. Voilà, quand je pense, c'est quelque chose que tout le monde partage. Quand quelqu'un a commis un crime, on a envie qu'il souffre. On pense qu'il mérite de souffrir. Voilà. Mais Beccaria dit il faut un petit peu réfléchir. Il faut se demander si tous les sentiments doivent être, sont légitimes, sont justifiés. Il existe des sentiments qu'on ne pourra pas. Par exemple, on va dire, bien sûr, on a envie de qu'il souffre, mais est-ce qu'on n'a pas envie aussi de se venger? Et est-ce que la vengeance est légitime? Est-ce que l'institution pénale doit satisfaire les passions de vengeance des citoyens? Donc il dit, en réalité, si on regarde bien, ce sentiment de rétribution ne peut pas être justifié rationnellement. Pourquoi, alors qu'un mal a été fait, on doit faire un deuxième mal? C'est irrationnel. Il ne dit pas qu'on ne doit pas appliquer une peine, mais il dit, cette peine ne peut pas être fondée dans l'idée que puisque quelqu'un a commis un mal, il mérite de souffrir.
Parce que la justice n'est pas une affaire de vengeance.
Voilà, parce qu'il dit à ce moment-là, c'est autoriser la vengeance. Et c'est pour ça que dans ce texte, il dit, le but de la peine, ce n'est pas de faire souffrir. En réalité, ici, de manière très condensée, il critique toute une tradition que j'ai résumée dans le principe de rétribution. Le but de la punition, c'est effectivement faire souffrir, puisqu'on dit que dans la tradition antérieure à Beccaria, puisqu'on dit que ce qui fonde le droit de punir, c'est le fait que quelqu'un doit souffrir parce qu'il l'a fait souffrir quelqu'un d'autre, parce qu'il a commis une infraction. Donc Beccaria dit, c'est irrationnel, la seule rationalité Nous sommes des êtres humains, nous essayons de vivre ensemble dans une société. La seule chose qui, rationnellement, peut fonder une peine, c'est empêcher les maux futurs. Un mal a été fait, la seule chose qu'on peut essayer de faire, rationnellement, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des créatures humaines, la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'empêcher la violence future. Donc la seule justification des peines, c'est d'empêcher que d'autres crimes aient lieu, que d'autres infractions aient lieu, que d'autres personnes souffrent.
Son argument, il est pas moral, il n'est pas de dire qu'il est mauvais de faire souffrir quelqu'un sous prétexte qu'il en ait fait souffrir d'autres. Il n'y a pas de logique chrétienne à l'œuvre ici qui consisterait à vouloir punir quelqu'un bannir la douleur infligée parce que c'est mal, c'est parce que c'est contre-productif. C'est qu'en fait, ce qu'il montre, c'est que la punition par la souffrance n'a jamais dissuadé quiconque de commettre un crime.
Oui. Alors, la première chose sur laquelle Beccaria insiste, c'est l'idée que le but du droit pénal, c'est de minimiser au maximum la douleur et la souffrance, minimiser au maximum le mal. Donc, ce qu'il faut faire, effectivement, comme vous dites, c'est faire le moindre mal possible, y compris à celui qui a été condamné. Puisque toute souffrance, une souffrance ne peut être justifiée que lorsqu'elle est utile. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'on va appliquer des peines très douces à n'importe quel criminel, mais il s'agit de toujours de calculer le calcul, l'économie, toujours calculer pour que on fasse la. Alors là, il brise un autre principe, le principe selon lequel il y aurait une proportionnalité entre la sévérité de la peine et l'efficacité dissuasive. Alors, effectivement, si on admet ce principe, alors toute la construction de Beccaria s'effondre, parce que bien sûr, il a dit que le principe de rétribution est irrationnel, et donc on ne va pas faire œil pour œil, dent pour dent, on ne va pas faire souffrir parce que quelqu'un doit souffrir, mais si d'autre part on admet que plus on fait souffrir le coupable, et moins on aura de violence par la suite, alors on reste dans le système de l'Ancien Régime et on ne change rien. Alors Beccaria, justement, l'autre grande révolution de Beccaria, lui aussi, ça c'est vraiment, là, il est l'un des premiers à le dire, alors après Montesquieu, là aussi il y a une grande influence de Montesquieu, ça consiste à défaire le lien entre ces deux proportionnalités, entre ces deux variables, que sont la sévérité de la sanction et l'efficacité de la dissuasion, et il dit c'est pas vrai du tout, que plus une peine est sévère, ou que plus une peine est cruelle, et plus elle sera dissuasive. C'est pas vrai du tout. Parce que lorsqu'on fait des peines cruelles, qu'est-ce qu'on fait sinon accoutumer les hommes à la violence? Quand on voit l'État lui-même accomplir des actes cruels, on instille le venin de la violence dans tout le tissu social. On habitue les mœurs, on habitue les âmes à la violence. Et donc, on en réalité, on secrète plus de violence qu'on en empêche.
Écoutons l'argument de Beccaria lui-même, enfin les arguments dans Des délits et des peines, le paragraphe 28 qui est le plus long du texte, sans doute celui qui est resté le plus dans la postérité, parce que c'est dans ce paragraphe qu'il développe les arguments contre la peine de mort.
N'est-il pas absurde que les lois, qui ne sont que l'expression de la volonté générale, qui détestent et punissent l'homicide, ordonnent un meurtre public pour détourner les citoyens de l'assassinat? Quel est le sentiment général sur la peine de mort? Il est tracé en caractère ineffaçable dans ces mouvements d'indignation et de mépris que nous inspire la seule vue du bourreau, qui n'est pourtant que l'exécuteur innocent de la volonté publique, qu'un citoyen honnête qui contribue au bien général et qui défend la sûreté de l'État au-dedans comme le soldat la défend au-dehors. Quelle est donc l'origine de cette contradiction? Et pourquoi ce sentiment d'horreur résiste-t-il à tous les efforts de la raison? C'est que, dans une partie reculée de notre âme, où les principes naturels ne sont point encore altérés, nous retrouvons un sentiment qui nous crie qu'un homme n'a aucun droit légitime sur la vie d'un autre homme, et que la nécessité qui étend partout son sceptre de fer peut seule disposer de notre existence. Que doit-on penser en voyant le sage magistrat et les ministres sacrés de la justice faire traîner un coupable à la mort en cérémonie, avec tranquillité, avec indifférence? et tandis que le malheureux attend le coup fatal dans les convulsions et les angoisses, le juge qui vient de le condamner quitte froidement son tribunal pour aller goûter en paix les douceurs et les plaisirs de la vie et peut-être s'applaudir avec une complaisance secrète de l'autorité qu'il vient d'exercer.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. La France est grande, non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qu'il a emportée au mouvement privilégié de son histoire. La France est grande parce que elle a été la première en Europe à abolir la torture. Et il y avait à cet instant, dans le pays, des esprits précautionneux qui disaient que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux citoyens. La France a été parmi les premiers à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, presque le dernier, et je baisse la voix pour le dire, en Europe occidentale, dont nous avons été le foyer et le pôle si souvent, à abolir la peine de mort.
Philippe Audejean, on vient d'entendre d'abord un extrait du paragraphe 28 des délits et des peines de Beccaria interprété par Jean-Louis Jacopin, un texte lu il y a quelques années déjà et qu'on a plaisir à rediffuser aujourd'hui, puis la voix de Robert Badinter dans son discours en 1981. L'argument de Badinter dans ce qu'on entend là est un argument qui se fait notamment au nom de la France, au nom d'un pays, ce qui n'est pas du tout l'argument qui est développé par Beccaria. En revanche, il est intéressant de s'interroger sur l'influence directe du texte de Beccaria dans la prise de position et la proposition même de Robert Badinter à ce moment-là. Est-ce qu'elle est directe, selon vous ?
Oui, bien sûr, elle est directe. Robert Badinter a médité sur ce texte de Beccaria. Il en parle, bien sûr, beaucoup. Beccaria est considéré, évidemment, comme voilà, le père de l'abolitionnisme, le premier à avoir, dans une longue histoire, hein, ça a été très long. Le droit de vie et de mort est depuis toujours considéré comme l'attribut par excellence de la souveraineté. Il a été très difficile de dénouer dans la culture occidentale l'idée de la souveraineté d'une part et d'autre part l'idée du droit de vie et de mort. Donc ça a été très très long en fait. Beccaria, disons il y a trois choses qu'on peut dire. Il y a d'une part pourquoi Beccaria finit par faire sauter ce lien qui paraissait indissoluble entre droit de vie et de mort et droit de souveraineté. D'abord parce que il réinterprète l'ensemble du droit pénal de manière différente. C'est-à-dire que le droit pénal à partir de Beccaria, c'est plus l'instrument de défense du souverain. Le souverain qui doit se défendre contre la violence qui menace le pouvoir. Le droit pénal, c'était ça. C'était le glaive dans la main du souverain qui permettait de défendre la souveraineté, de défendre. Alors que maintenant, ça devient l'instrument de garantie du citoyen. C'est le citoyen qui doit se défendre des violences qui le menacent chaque jour. Le droit pénal, ça sert à ça. Ça sert à défendre la victime contre ceux qui risquent de l'agresser. Ça sert à défendre... Le droit pénal, c'est la loi du plus faible. Ça consiste à défendre celui qui est le plus faible contre celui qui est le plus fort.
Sachant que le plus faible, parfois, est le condamné.
Alors, le droit du plus faible, c'est qui est le plus faible ? Le plus faible, c'est évidemment, au moment de l'agression, la victime. Le droit pénal, la première raison d'être du droit pénal, c'est d'empêcher toute violence et en particulier d'empêcher les violences contre les victimes, bien entendu. Mais une fois qu'un suspect a été arrêté, qui est le plus faible ? C'est bien entendu le suspect. Donc le droit pénal doit protéger le prévenu contre toutes les violences injustes, arbitraire qui pourrait être fait contre lui. Par exemple, principe de présomption d'innocence, par exemple, droit de la défense. Beccaria est le premier à énoncer de manière très claire le principe de présomption d'innocence. Mmh. Et puis on pourrait continuer. Qui est le plus faible au moment après la condamnation dans l'institution, dans l'administration pénitentiaire? C'est le condamné, celui qui purge sa peine et qui devrait être défendu. Il est très mal dans nos systèmes, qui devrait être défendu contre toutes les violences arbitraires qui lui sont infligées par l'administration pénitentiaire. Donc voilà, c'est vraiment une toute autre interprétation du droit pénal qui va lui permettre de regarder complètement différemment les choses et de dénouer ce lien millénaire entre l'attribution, la détention du pouvoir politique le plus haut et le pouvoir de vie et de mort. Et puis ensuite, si on regarde maintenant plus précisément sur les principes, il fallait faire sauter deux verrous pour critiquer la peine de mort. Premièrement, je l'ai déjà dit, le principe de rétribution, puisqu'il fallait d'abord critiquer l'idée selon laquelle quelqu'un qui a tué mérite d'être tué, donc critiquer la loi du talion, en tout cas le principe de rétribution. Et puis il fallait aussi faire sauter un autre verrou qui était le verrou de l'idée de prévention, l'idée selon laquelle plus la sanction est sévère, donc jusqu'à la peine de mort, et plus l'efficacité est dissuasive. Et si on abolit la peine de mort, on n'arrivera plus à protéger la société des criminels les plus violents. Et il va montrer, c'est l'essentiel du chapitre 28, il va montrer que la peine de mort n'est pas dissuasive.
C'est pas l'intensité de la peine qui est efficace, c'est son extension, en fait.
Voilà. Voilà.
Une peine douce est plus longue et plus efficace qu'une mort, en fait.
Voilà, il y a tout un ensemble d'arguments consacrés. Alors, par exemple, bon, moi je pense que le plus intéressant, c'est celui que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est quand il dit, lorsque on voit l'État lui-même qui interdit l'homicide, pratiquer lui-même un homicide, eh bien on perd confiance, on répand la violence dans la société. L'État donne un exemple de violence et donc on finit par alimenter la violence qu'on voulait au contraire empêcher.
Parce qu'il y a une dimension d'exemplarité dans la justice appliquée, c'est-à-dire que c'est une action commise par la justice va induire forcément les actions des citoyens.
Voilà, et surtout que la peine de mort repose essentiellement sur l'exemple qu'il faut essayer de donner. Donc cet exemple-là, en fait, ça va être un spectacle et pas un exemple, dit Beccaria. C'est-à-dire que ça va attiser les passions les moins nobles. On va vouloir regarder, une espèce de curiosité morbide. Et puis on va aussi, il y a une espèce de critique des mœurs pénales liées à la peine de mort. On va alimenter la violence.
Dans certains cas, cependant, elle est autorisée. Elle est jugée légitime par Beccaria.
Non.
Non, même dans les cas de sédition,
non,
absolument.
Non. Beccaria, alors ça, c'est une question d'interprétation. Effectivement, on a parfois expliqué que Beccaria admettait une exception. Moi, je crois pas du tout. Non. Je suis pas le seul. Je crois que Beccaria n'admet aucune exception. Beccaria évoque le cas d'un moment où il n'y a plus d'État, où nous sommes plus dans un état civil stable, c'est-à-dire un moment d'anarchie. Et il dit dans les moments d'anarchie, c'est-à-dire dans les moments où il n'y a plus de loi, où la loi ne règne plus, la peine de mort, on n'est plus dans un état de droit, on est dans un cas de guerre civile, et puisqu'on retombe dans la guerre civile, effectivement, on a une légitimité guerrière. Voilà. Il existe un droit de guerre, le droit de guerre prévoit le droit de mettre à mort. Et donc on est dans un mais dans un état civil dans un état civil stable, à partir du moment où vous mettez à mort quelqu'un, vous êtes dans le droit de guerre. Vous avez déclaré la guerre à quelqu'un. Or on n'est pas dans un état de guerre, donc on n'a jamais le droit de mettre à mort un citoyen.
Il reste, disons que lorsqu'il évoque dans le paragraphe 28 les situations qui pourraient expliquer l'utilité de la peine de mort, il y a celui de l'exemplarité, vous avez évoqué les raisons qu'il avance pour contrer cet exemple, et il y a justement le fait qu'un individu met en danger la société dans son ensemble, qui quand ça conduit à une espèce de révolution ou même une forme d'anarchie, et là Beccaria dans le texte il reste silencieux à ce sujet quand même, où il dit vraiment non.
Non, il dit que un individu seul ne peut mettre en péril une communauté que dans un cas de guerre civile, que dans un cas d'anarchie. Il faut relire le texte précisément, mais que dans un cas d'anarchie. Donc, il est impossible que dans un état stable, une personne puisse menacer la vie civile, la vie civile dans son ensemble, les institutions. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a absolument pas de raison de mettre à mort. On ne peut mettre à mort qu'en guerre. Voilà.
Un dernier point, parce que malheureusement on arrive déjà au terme de cet entretien, on est loin d'avoir lu tout le livre alors qu'il est passionnant. Là on a parlé sur la peine de mort en particulier parce que c'est emblématique, mais on a aussi toute cette réflexion, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, sur la douceur des peines. Le terme apparaît, la douceur des peines qui est plus efficace que la violence d'une peine. C'est intriguant de trouver ce terme-là.
Oui, le principe de Beccaria, c'est qu'il y a deux exigences pour qu'une peine, les deux exigences pour légitimer une peine, il faut qu'elle soit la plus douce possible, puisque que doit faire le droit pénal? Comment est justifié le droit pénal? Le droit pénal a pour mission de minimiser au maximum la violence. Il faut qu'il y ait le moins possible de violence dans la société. Donc, il faut aussi qu'il y ait le moins possible de violence, y compris sur le condamné. Donc, il faut qu'elle soit la moins sévère possible, et en même temps qu'elle soit la plus dissuasive possible. Car le but du droit pénal étant celui de minimiser la violence, il faut qu'il prévienne et il faut qu'il empêche les maux futurs. Or, ce qui paraissait contradictoire jusqu'à Beccaria ne le paraît plus pour lui. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas vrai que plus on augmente la sévérité et plus on augmente la dissuasion. Donc il y a une espèce d'inversion, ce que j'appelle une inversion psychosomatique. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que l'effet sur le corps du coupable soit le moindre possible et que l'effet sur l'âme des innocents, c'est-à-dire la dissuasion, soit la plus grande possible. Voilà. Une inversion du parallélisme psychophysique.
Le roi fait battre tambour, le roi fait battre tambour, pour voir toutes ces dames, et la première qu'il a vue, lui a ravi son âme. Marquis, dis-moi, la connais-tu? Marquis, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie dame? Le marquis lui a répondu: Sire roi, c'est ma femme.
Merci beaucoup Philippe Audejean d'être venu nous parler de Beccaria aujourd'hui.
Merci à vous.
Vous êtes professeur de philosophie à l'université de Nice. On vous doit une édition des délits et des peines de Beccaria aux éditions Rivage, ainsi qu'un ouvrage intitulé La philosophie de Beccaria, savoir punir, savoir écrire, savoir produire, chez Vrin. Et vous venez de faire paraître un ouvrage sur Léopardi, l'art de ne pas souffrir. Ce sont des lettres de Léopardi que vous avez traduites et dont vous proposez une édition, toujours aux éditions Rivage.
Et le roi, je tirerai vengeance. Mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance.
Et c'est à Édith Piaf, le roi a fait battre tambour, que revient le mot de la fin, souffrance, culture, les chemins de la philosophie, enfin de la fin de notre entretien, Philippe Audejean, mais le début de la chronique de Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Pour vos 2 minutes papillon quotidienne, vous nous donnez envie de lire chaque livre un ouvrage qui vient de paraître, et aujourd'hui il s'agit du mythe de la singularité.
Oui, tout à fait, puisque sort aujourd'hui le numéro du mois d'avril de Philosophie Magazine, avec lequel nous sommes partenaires. J'ai repéré cet essai dans les pages livres de ce magazine. Donc c'est un essai de Jean-Gabriel Ganassia, c'est donc, comme vous l'avez dit Adèle, sur le mythe de la singularité, avec pour sous-titre cette question: faut-il craindre l'intelligence artificielle? Grande question, et d'abord parce qu'elle revient sans cesse depuis les années 60 environ, et parce qu'elle revient tout autant dans la bouche des scientifiques que des philosophes, ou encore dans celle des écrivains de science-fiction, jusqu'à imprégner chacun d'entre nous. Et c'est d'ailleurs par un tableau de ces inquiétudes que Jean-Gabriel Ganassia ouvre son livre. C'est par exemple Stephen Hawking, le célèbre physicien et cosmologiste britannique, qui lance un cri d'alarme en 2014 contre les technologies susceptibles de devenir incontrôlables. C'est aussi Kevin Warwick, cybernéticien, qui se fait connaître du grand public en 1998 lorsqu'il exhibe à la presse la puce de silicium pour montrer que l'on peut l'introduire sous la peau et transformer ainsi le corps en organisme cybernétique. Ou encore, c'est par exemple le chercheur belge Hugo de Garis qui va jusqu'à imaginer une guerre mondiale et fratricide entre cosmites, détenteurs d'une intelligence artificielle, et les Terrans qui veulent conserver à tout prix l'homme à sa suprématie. Tous et encore d'autres sont donc affolés et mettent en garde contre ce moment où l'humanité va disparaître pour laisser place aux robots, ordinateurs et autres intelligences artificielles. Mais il s'agit ici d'un mythe pour Jean-Gabriel Ganassia, le mythe de la singularité technologique. Entre le mythe et la technologie, les peurs et les risques certains, comment vraiment déterminer ce moment de bascule, donc cette singularité où l'humanité ne se servira plus de la technologie pour s'améliorer, mais où celle-ci va changer de nature et carrément disparaître. Ce qui est donc en jeu, ce ne sont pas seulement les risques de la technologie, mais les nôtres, ce que l'on a face au futur technologique. Or, peut-on l'appréhender, même quand on est scientifique, sans peur? Jean-Gabriel Ganassia veut modérer ses peurs, en scientifique justement, mais tout en les rappelant aussi, car aborder le futur, est-ce forcément le faire en oubliant ses peurs, ses affabulations et même peut-être sa raison?
Merci Géraldine, c'est donc le mythe de la singularité.
De Jean-Gabriel Ganassia, c'est paru aux éditions du Seuil, et j'en profite pour annoncer que Jean-Gabriel Ganassia sera dans la discussion du soir avec Antoine Garapon ce soir à 22h15.
Sur France Culture, donc merci Géraldine, merci à tous, et moi j'en profite pour annoncer. Dans le cadre de notre partenariat avec Philosophie Magazine, la nouvelle formule, celle d'avril, enfin qui était déjà présente le mois dernier, mais vous pourrez la trouver en kiosque aujourd'hui, le numéro d'avril est sorti. Brexit, Trump, présidentiel, pourquoi tout peut arriver? Le principe d'incertitude, c'est le titre du dossier principal que vous trouverez dans ce numéro. Merci à Nicolas Bouteloup, Marianne Chassor, Livia Garrigue, Antoine Ravon, Olivier Bétard à la réalisation cette semaine, Anthony Thomasson à la prise de son aujourd'hui, Yvan Morane à la lecture des textes cette semaine également. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, nous serons en direct du Salon du Livre, Salon du Livre Paris, plus exactement, et j'aurai le grand bonheur de recevoir le philosophe Souleyman Bachir Diagne qui viendra vous parler de Bergson postcolonial. Sur France Culture, à 11h, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Bonjour Florian.
Bonjour Adèle.
Vous continuez vos tours et détours de la langue française.
Absolument, et aujourd'hui on va parler de créolisation des langues.
Merci Florian, à demain.
À demain.
Tout de suite sur France Culture, non sans avoir fait un détour par Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires, et non sans avoir téléchargé cette émission sur le site de France Culture, vous avez rendez-vous avec votre feuilleton quotidien, La Vie Moderne.